Voilà donc mon cher Léon, je suis très content que vous ayez accepté cette invitation qui n'est pas de coutume parce que justement vous acceptez de témoigner pour un épisode de burn-out que vous avez subi, que vous avez éprouvé. Ça n'est pas si fréquent que quelqu'un puisse témoigner, je dirais, comme en live sur quelque chose qui l'a beaucoup impacté et dont elle émerge à sa façon, pour donner quelque éclairage, en quelque sorte incarné, personnalisé sur ce qui peut arriver dans le contexte pour une personne qui avait des responsabilités, un poste important et pour qui son identité d'entreprise était importante, etc. Et qui peut-être par rapport à ça, nous permettent de comprendre, ou du moins de questionner pas mal de choses. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Comment les choses se sont présentées pour vous? Voilà, quand vous avez fait ma connaissance.
Oui, ah oui, cher Lucien.
Ah, mais voilà, oui. Mais je vais expliquer pourquoi qu'on comprenne pourquoi cela vous fait rire, puisque au départ, c'était plutôt quand même très
Bah, c'est un
sérieux.
éclat de rire parce
C'était
que
tendu quand même, voilà.
je ne comprenais rien. Déjà, je venais. Je suis venue vers vous avec un cadre dans ma tête. Et je voyais une personne. Bon, j'ai un passé thérapeutique de par mon métier conséquent. Et je me suis trouvée dans un cadre où je sentais qu'il y avait une structure, mais je ne voyais pas laquelle elle était. Et j'avais face à moi, avant un thérapeute, un être humain. Donc je ne comprenais rien. Parce que moi, je n'étais pas venue rencontrer un être humain.
Ah, d'accord. Je comprends votre dépaysement, ma chère Béa. Mais est-ce que vous pouvez, puisque, bon, expliquer peut-être aux personnes que ça peut intéresser, qui vont vous écouter, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à avoir envie d'accepter de témoigner et pourquoi? Cela vous est important parce que vous pouvez le faire par rapport à une espèce de masque que vous pouvez revêtir pour cela, en fait, dans la conquête ou dans la reconquête de votre personnalité.
C'est une belle question, une très belle question. L'envie du témoignage est venue progressivement en fait. Je pense qu'au début, j'osais pas trop vous en parler, mais je sentais que il se passait quelque dans le travail, le travail de bâti, un peu comme un tailleur de bâti. Le faux fil qu'on faisait ensemble entre la doublure, le tailleur qu'on était en train de construire ensemble de ma vie,
De
de
confectionner,
confectionner à quatre mains,
oui.
il se passait quelque chose d'important pour moi, d'inusité. Et dans cette chose inusitée, souvent quand je rentrais à la maison, je jette quelques petits mots comme ça, puis il y a une pâtisserie pas loin, où j'ai mes petits rites. Après nos séances, mon petit gâteau, mon petit café et mon petit carnet, je voyais que souvent le mot qui revenait, c'était précieux. Il s'était passé quelque chose de précieux pour mon être, pour moi.
Oui. Peut-être vous pouvez préciser, parce que ça peut intéresser aussi, le sens que ça avait pour vous, votre petit carnet, par exemple, et puis ce que vous évoquez d'un trajet physique et concret, du parcours, du retour chez vous, tout cet espace perceptif et sensoriel que d'habitude on n'évoque pas du tout dans le cadre des thérapies ou qu'on ne rend pas officiel dans la réalité de son espace de perception. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu préciser cette chose intéressante et délicate?
Ça, c'est là aussi, je pense que c'est. Je vais essayer de trouver les mots les plus justes. Ce côté aussi de finesse que j'ai appris à votre contact. Je pense qu'au début, je venais brute de décoffrage ici, hein, sans me poser trop de questions. Il y avait quelqu'un que je payais pour m'aider à aller mieux, point barre. Et au fur et à mesure, ce mystère qu'en quelque sorte vous étiez pour moi et que nos séances étaient pour moi, c'est-à-dire je ne comprenais pas ce qui s'y passait, mais je sentais qu'il se passait quelque chose d'important. Et peu à peu, au bout de quelques mois, en fait, il y a un espèce d'itinéraire pour aller en thérapie qui, à l'intérieur de moi, s'est fait. Qui souvent démarre la veille, comme ça, il y a je pense à la séance ou pas. En fait, il y a une espèce de préparation, et l'itinéraire, il est physique aussi. C'est je pars de chez moi, je suis dans la rue, il y a ma pâtisserie, il y a le café qu'on prend ensemble. Et après la séance, il y a l'après-séance où j'essaie de recueillir à l'intérieur de moi, mais aussi sur un carnet, qu'est-ce qui s'y est passé et l'être que je suis à la sortie de la séance. D'accord. J'essaie d'être un témoin. Le carnet, via ma main, devient un témoin de nos séances. Et puis, on en reparle entre les deux.
D'accord. Donc, vous précisez bien cet espace sensoriel qui est très important pour moi, que vous personnalisez tout à fait dans votre venue, dans les contenus appétitif sur le trajet, sur les types de sensations qui se mettent en marche, et puis dans tout ce trajet, et l'après-coup, tout cet espace-temps dans son complet achèvement et parcours, tel qu'ensuite quelque chose se termine sur ce petit carnet qui va recueillir en quelque sorte des paroles vives. En mode écriture et en mode de reste d'impression.
C'est ça. Et ça parle aussi d'une découverte que j'ai faite. Je savais pas quelle était votre approche et je ne la comprenais pas. Et c'est au fur et à mesure que je suis devenue plus consciente que c'est une approche qui était ancrée dans le corps.
Oui.
C'est au fur et à mesure de vos retours. Moi, je venais ici, j'étais une boule d'angoisse, une boule de désespoir et de peur au démarrage. J'étais tombée très bas. Et au fur et à mesure, ces sensations étant acceptées, j'ai vu que on rencontre pas un thérapeute n'importe comment. Je me préparais à vous rencontrer, ce que je ne faisais jamais avec les autres. Il y a tout un aspect de connaissance de soi. Mais à partir de sensations, d'émotions et de pensées, observer, constater. Donc en fait, c'est une trame comme ça et une compréhension que j'ai eue au fur et à mesure.
D'accord. Alors, vous voyez, d'autres diraient c'est très parlant. Je pense qu'il faut dire c'est très senti.
C'est très senti, oui, voilà. C'est très sensitif.
Et voilà. Alors. Ceci étant, vous avez aussi donc dit que vous veniez comme ça, très très directement. En général, les gens, voyez-vous, débarquent bruts d'eux-mêmes et bruts de leur histoire, d'une certaine façon. Et donc, ce qui serait intéressant, parce qu'en général, quand les gens lisent les choses ou les voient dans l'indirect, alors ils aiment bien qu'on leur raconte l'histoire de quelqu'un, pourquoi il en est arrivé là, quel type de traumatisme, qu'est-ce qui a pu se faire pour et patati patata. Il faut cette espèce de grande introduction. Et là, en fait, est-ce que vous pourriez, un peu maintenant que vous avez ce décalage du témoignage, un peu raconter comment vous êtes arrivé, si je peux me permettre de dire brut de vous, et comment vous êtes venu chargé de votre contexte, voilà. Prenez votre temps, parce que c'est une question assez large.
C'est une question qui est complexe et qui en même temps est importante. Je vais essayer d'aller à ce qui peut...
Et puis vos souvenirs d'autres
fois. Parler, voilà. Il était une fois Vera.
Oui.
Qui débarque sur les conseils d'une amie. qui est coach, comme Vera, avec tout un parcours en entreprise de directeur des ressources humaines, d'ergonome, etc., des responsabilités autour de l'homme. Et Vera débarque sans repère. Elle n'a plus de repère. Le corps répond plus. J'étais au fond, vraiment, en, je ne sais pas si on peut dire phase terminale, mais j'étais dans une confusion de pensées très importante. Quand j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais constaté que j'avais peut-être 2 heures d'énergie comme ça pour moi, ce qui est assez peu dans une journée, et que j'étais du dehors, je constatais que j'étais en exclusion, c'est-à-dire que je ne vivais plus une vie ni physiquement, ni mentalement, ni sur les autres plans. J'étais dans un espèce d'espace que je ne savais pas nommer. Un peu, moi, de temps en temps, je me disais, mais est-ce que j'étais devenue folle, en fait, hein? Je ne savais plus. Et je venais chercher comme ça, un monsieur qui avait une baguette magique, en fait, je ne savais pas, mais c'était pour moi un recours. J'avais une demande qui était énorme, en fait, ça c'est sûr. Hein. Parce que j'étais désespérée.
D'accord. Alors, vous avez peut-être un peu précisé, vous étiez comme recluse et complètement enfermée sur vous-même. N'ayant plus une sorte de dynamique ou d'énergie, je ne sais pas, peut-on dire d'espoir en ce qui vous concerne, mais vous aviez déjà quand même tenté de quelque chose sur vous, de vous aider à votre manière avant d'arriver sur l'indication de cet ami jusque moi. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les relais avant que je ne vous vois arriver en bloc de vous-même, si je puis dire.
Quand Vera et quand je suis arrivée ici, c'est vraiment le bout d'un processus où, par tempérament, moi, je suis une lutteuse. En tout cas, j'avais cette certitude, je ne l'ai plus maintenant, mais qu'on obtient beaucoup de choses par la lutte et qu'en fait, dans mon itinéraire, Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais et je travaille encore, qui est une entreprise que j'aime beaucoup, qui m'a donné beaucoup de formation, beaucoup de responsabilités, j'avais déjà utilisé de nombreux moyens, hein, c'est-à-dire que j'étais allée voir le médecin du travail, on avait fait un point avec l'assistance sociale, c'est-à-dire que et moi-même je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que j'étais fatiguée. J'étais affectée à un endroit où j'avais 3 heures, presque 4 heures de trajet par jour. Et je leur ai proposé des solutions pour sortir de ce contexte où je voyais bien que la fin n'allait pas être intéressante ni pour eux ni pour moi.
D'accord.
Et je me suis heurtée à des procédures, à des personnes. Là, je pense qu'en France, on a un côté... qui n'est pas aidant pour les personnes qui vivent un burn-out parce qu'elles rencontrent des gens qui ont un savoir parcellaire. Chose dont on a pu sortir ici.
Vous aviez vu, auparavant, donc d'après ce que vous m'avez confié, médecin de médecine.
J'avais épuisé beaucoup de relais déjà.
Vous avez épuisé toutes les ressources que vous pouviez et que l'entreprise pouvait vous fournir. Mais vous ne trouviez pas à vous faire comprendre ou entendre ou à donner sens à ce qui vous arrivait, à ce qui se passait pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu les jalons de cela, ma chère Vera?
La difficulté de l'histoire, c'est que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Voilà, et les gens, personnes que je rencontrais non plus.
Voilà.
Oui. C'est-à-dire que j'allais vers les personnes...
Ce n'est pas évident à comprendre que les personnes elles-mêmes ne comprennent pas.
Parce que pour moi, j'étais bizarrement fatiguée. J'avais un accompagnement énergétique, j'avais un accompagnement en phytothérapie, donc j'avais sur la base physique, normalement, je devais aller bien. Je ne comprenais pas pourquoi je n'allais pas bien. Et quand j'allais voir les relais en entreprise, je mettais mon masque d'une fille qui allait y arriver. Donc, ces personnes-là m'aidaient, étaient sincères, m'aidaient toutes. Elles m'ont toutes aidée vraiment du mieux qu'elles ont pu. Mais à partir d'une fausse identité moi-même, c'est vous qui avez la première fois prononcé le mot burn-out.
Je m'en souviens encore. Excusez-moi, alors est-ce que vous voulez dire que chacun était pris dans son rôle?
Oui.
Et dans une espèce de formalisation d'esprit, plus ou moins officielle, et qu'il était très difficile à ce moment-là d'avoir l'idée de pouvoir vous suggérer un diagnostic ou de faire un diagnostic tel que cela vous permette de vous situer vraiment.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est, maintenant, je peux dire que Vera était finalement dans une situation où elle courait derrière des choses qui étaient importantes pour elle, la réussite. Je me rappelle que quand j'allais en entretien, j'avais une hantise, c'était être efficace, décrocher un job, mais c'était en rupture totale avec qui j'allais être un quart d'heure après dans la rue, c'est-à-dire effondrée.
D'accord. D'accord. Donc vous n'aviez pas l'intuition ou la sensation que cette intensité avait pu à un moment donné vous user ou vous rendre souffrante. Vous n'aviez pas l'impression vous-même que vous pouviez être souffrant de votre intensité, de l'intensité de votre engagement dans votre entreprise ou en faveur de votre entreprise. Et donc, cette souffrance, cette difficulté, donc, passait par votre médecin traitant. J'ai cru comprendre que vous alliez trouver votre médecin traitant.
Oui, j'ai été voir mon médecin traitant.
Et comment les choses se passaient avec lui?
Mon médecin traitant, connaissant mon histoire, me disait, mais Vera, vous allez vous en sortir. Chose que j'avais absolument besoin d'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait...
Ce que vous voulez dire que vous l'induisiez un petit peu.
Mais oui, c'est-à-dire que ce que je vois aujourd'hui avec le travail de détricotage qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes que je suis allée voir, même à un moment, j'ai travaillé avec un médecin en souffrance au travail d'un hôpital, d'un gros hôpital sur Paris, et en fait, les personnes me disaient, mais voyaient la battante, le masque de battante et de personne efficace, la manager efficace que je présentais, et se laisser prendre par cette identité que je présentais, que je jouais, qui était l'identité à laquelle je m'accrochais. Et donc, les personnes me donnaient une petite pichenette, soit me disaient « mais on va y arriver », etc. Ce qui masquait la réalité. C'est-à-dire que moi, je continuais à descendre l'escalier de l'épuisement.
D'accord.
Et même quand j'ai eu des symptômes physiques en entretien de recrutement, j'ai eu des crises d'asthme, je me suis mise à pleurer sans trouver le bouton pour arrêter les pleurs, à aucun moment dans ma tête, on n'a pas de formation sur le burn-out en entreprise. Moi, j'étais DRH, j'ai jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, bon, t'es un peu fatiguée, peut-être déprimée, parce que tu es allé voir beaucoup de personnes et au final, on n'a pas trouvé de solution, même avec des personnes bien intentionnées. Et donc, j'étais loin de la vérité de mon cas, de ce qui se passait.
C'est ça.
Très loin.
C'est ça, d'accord. Donc, en fait, ce que vous dites que finalement... vous aviez une habitude tellement professionnelle que vous faisiez en sorte où les personnes vous regardaient eux-mêmes au travers des conditionnements ou des vitres de leur profession ou de leur professionnalité ou de leur spécialité professionnelle. Et donc il faut aussi leur rendre cet hommage, mais que au travers de ça, en fait, ils ne vous voyaient pas ou ils n'arrivaient pas à vous voir, vous, vraiment.
Oui, et je pense que ça s'est joué aussi ici, c'est-à-dire que les 6 premiers mois, où vraiment je venais, parce que je voulais y arriver, je continuais, je me suis dit, on va y arriver avec Lucien, je veux y arriver.
Parfait.
Absolument y arriver. Donc j'étais lancée dans ma Porsche.
Oui.
Il était, il fallait que ça marche. Hein. Il fallait mieux que vous étiez d'accord avec moi.
Hein. Vous étiez comme en autonomie toute seule.
Bon, en fait, dans ma tête, je me disais, mais il va falloir qu'il se bouge, hein, celui-là. Je comprends rien à ce qu'il fait.
Et je veux des résultats.
Et je veux des résultats.
Parfait. Très bien.
Et bon, on a eu des phases, je ne comprenais pas votre vocabulaire, parce que je ne suis pas formée, même si j'ai beaucoup lu sur les neurosciences, je suis une fan de Jean-Pierre Changeux. Je vous voyais écrire des pages et des pages de schémas pendant que je parlais. Je me disais, mais s'il pouvait m'en donner une que je comprenne, mais qu'est-ce qu'il fabrique ?
Alors, est-ce que vous êtes pas intéressé, puisque vous êtes témoin de l'intérieur, de voir qu'est-ce que ça pouvait vous faire, vous, de votre place de témoin, venant consulter, de voir quelqu'un comme moi en train de dessiner, faire des schémas constamment, etc., en contradiction avec ce que vous aviez expérimenter des gens qui écoutent tout oreille sortie, etc., postés dans leur assise ou leur fauteuil, je ne sais pas. Parce que vous, de votre point de vue extérieur...
Paumé, on ne peut pas dire mieux. Hein.
Donc ça,
complètement paumé.
Oui, oui.
Et en même temps, quelque chose de paradoxal. Mmh. Et je pense que c'est ma petite voix intérieure qui voyait cette chose paradoxale et qui faisait, je me rappelle, que je mettais sur mon carnet... Tu comprends rien, c'est qui ce bonhomme, et pourtant tu vas au prochain rendez-vous. J'allais au prochain rendez-vous, et je ne comprenais pas pourquoi.
D'accord, mais vous aviez une impression, au-delà de comprendre, qu'au travers de cette attitude, les schémas, façon de vous recevoir, etc., qu'il se passait quelque chose.
Il se passait quelque chose. En tout cas, une des premières choses, et mon cerveau, je pense prisonnier de schémas aussi,
oui,
ces schémas qu'on a décrits, détricotés.
Oui, oui.
J'arrivais pas à mettre en lien que d'un côté, il y avait ici un cadre où je me sentais sécure, chose que je n'avais pas vécue depuis bien longtemps, où on ne me donnait pas de leçons, où même quand moi je me sommais de me remettre debout, l'autre... Il achetait pas tant que ça, et ça je comprenais pas, je me dis tiens, bizarre. Donc il y avait l'incompréhension d'un côté, une espèce de no man's land mental, et j'étais là à constater que j'avais peut-être moins mal au ventre, je respirais un peu mieux, ça allait mieux, mais je comprenais absolument pas pourquoi, et je comprenais pas ce que vous fabriquiez. Donc il y avait un lien que j'arrivais pas à faire entre... des phénomènes qui se passaient mais dont je n'étais pas consciente.
D'accord. Oui, oui.
Et ce que je pensais être, devoir être un cadre thérapeutique.
D'accord. Donc il y a ce qui se passait dans votre esprit, on dit souvent dans votre tête, et par ailleurs, il y a ce que vous constatez, ce qui se passait physiquement.
C'est ça. C'est-à-dire que je ne pouvais que constater dans ma boulangerie devant mon Paris-Brest et mon petit café que c'était mystérieux. Si je me dis, mais c'est peut-être un gourou, j'aime pas les gourous. Enfin, et en même temps, je ne pouvais pas me mettre en défiance, c'était pas possible, puisqu'il y avait quelque chose qui faisait fondamentalement confiance à ce qui se passait.
Vous avez dit,
mais je ne comprenais pas pourquoi.
Vous disiez que vous ne pouviez pas vous mettre en confiance. Mais ce qui est important de faire comprendre, je dirais, aux éventuels auditeurs ou compreneurs de quelque chose, c'est que le mot défiance qui est sorti est très spontané dans vos perceptions. Alors évidemment, il faudrait parler de lapsus et patati patata. Je pense que c'est votre défiance était la bienvenue, car c'était au travers de votre défiance que pour moi, il était intéressant d'établir le contact avec vous. D'établir le contact avec vous, pas tel que ceci, lui-ci, aurait été idéal, et d'une simplicité telle que, d'une certaine façon, il n'aurait plus qu'à eu et qu'à signer une feuille de papier, mais c'était au travers. Alors, classiquement, on dit les résistances, peut-être pas de là, mais il ne s'agit pas de résistance, il s'agit de sentiments d'une intensité telle que les choses, pour vous, étaient comme votre identité propre.
C'est ça.
Voilà.
Et je me souviens d'un coup de maître, comme ça, c'était dans ces six premiers mois où je pense que moi, j'étais en duel parce que ça ne me plaisait pas, parce que je ne me comprenais pas. Et je me disais, mais il va bien changer sa méthode un jour ou l'autre, que je comprenne. J'étais en, comme s'il y avait une partie de moi qui disait, mais je vais lui expliquer. Comment il peut m'accompagner, celui-là. Et un jour, parce que je voyais bien qu'il y avait un os dans le fromage quand même. Et je vous ai dit, donc j'étais dans, bon, alors maintenant, on travaille, quoi. Et vous m'avez dit, mais Vera, mais moi, je sais toujours pas si je vais travailler avec vous. Et je me souviens, c'est comme un 11 septembre à l'intérieur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il plaisante. Ça faisait peut-être un ou deux mois que je venais là à l'arrache, en me traînant toutes les semaines. Donc pour moi, on était des partenaires. Enfin, je m'étais dit, c'est mon partenaire, j'avais décidé. Et puis j'avais quelqu'un qui me disait, mais c'est pas du tout comme ça qu'on décide, hein, Vera. En tout cas, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, en fait, vous parliez de résistance, ça a été suffisamment fort. Parce que je me rappelle que les séances d'après, je me suis dit, ah, il va falloir qu'il comprenne que je veux. En fait, je suis passée de il va falloir qu'il m'accompagne comme je veux à bon, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce que ça va représenter pour moi, mais je veux travailler avec lui. Et donc, il y a eu un espèce, je me rappelle,
une bascule,
que dans mon carnet, j'écrivais, je me sentais comme un gant qu'on venait de retourner, une crêpe, voilà. Pour la chandeleur.
Il y a eu un point de retournement qui est intéressant à expliquer pour les auditeurs, éventuels, que ce point de retournement critique, très important à un moment donné, d'une thérapie, mais d'une consultation dans la compréhension et dans le rapport avec l'autre personne. Voilà. Et y compris quand elle a votre dynamisme et qu'elle est lancée comme un train qui ne peut pas s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'était effectivement très, très intéressant à expliquer, puisque vous voulez bien l'expliquer. Et peut-être qu'il faut un tout petit peu revenir quand même en arrière, parce que vous avez beaucoup aimé votre métier, vous avez beaucoup aimé votre entreprise. Pour vous, elle a eu une importance extrêmement grande dans la construction de votre personne, de votre identité, de votre personnalité. C'est souvent très difficile à faire comprendre à beaucoup de gens que l'entreprise, le lieu du travail, le lieu de sa collaboration avec les autres peut être si important dans sa structuration mentale. Voilà. Et peut-être vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, puisque ça donne aussi un éclairage sur la manière dont vous ne vous attendiez pas à quelque chose qui s'écroule et vous n'ayez pas la force, en quelque sorte, de trouver votre propre recours. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus ?
Je pense que c'est justement cet espace de calme et des petites remarques comme ça que vous me faisiez, mais dont je n'étais pas capable d'entendre la teneur, que peut-être un individu pouvait avoir une identité sociale, une identité professionnelle forte, et en même temps, qu'elle se définisse autrement que par son travail. Ça, c'était surprenant. Il y avait de temps en temps, comme ça, une petite phrase, je me souviens, mais que je captais, mais comme dans un espèce de brouillard, très loin, comme un peu dans mes oreilles, c'était assourdi les paroles. En même temps, je les entendais, et c'est que peu à peu que j'ai constaté que j'ai dit, ah, mais oui, parce que le mot burn-out, vous ne l'avez pas prononcé tout de suite non plus, c'est venu quand un lien de confiance réel s'était installé entre nous, et moi, mais je ne voyais pas que j'étais complètement identifiée à Vera. J'étais complètement identifiée à ce métier que j'aimais. J'ai adoré tous mes métiers. Je pense que j'ai eu cette chance d'adorer tous les métiers que j'ai faits. C'est-à-dire que chacun m'a apporté quelque chose de fort. Dans chacun, j'ai apporté quelque chose de fort à l'entreprise. Et il n'y avait pas de regret. Et en fait, c'était mon premier échec. C'était mon premier... J'ai été dans l'excès, d'excès en excès, mais je ne le voyais pas. Et l'entreprise ne vous arrête pas. dans, dans, oui, des, dans des contextes comme ça.
C'était votre rencontre avec votre mur, en quelque sorte.
C'est ça. Mmh. L'entreprise, vous êtes hyper impliqué, mais l'entreprise est super contente. Va pas dire, mais Madame Vera, peut-être que 20 heures sont un peu beaucoup, vous rentrez chez vous. De toute façon, d'abord, on est beaucoup à faire la même chose, à 20 heures, on est au travail. Parce que souvent, on aime ce qu'on fait. D'autres l'aiment moins, mais il y a la pression des résultats, il y a la pression de réussir. Vous avez envie d'avoir un bon entretien d'appréciation. Et moi, ce n'était même pas l'entretien d'appréciation, c'était que j'aimais ce que je faisais. Donc, il n'y avait pas d'espace de réflexion entre mon job et moi. J'étais mon job.
Alors, si vous voulez, ce qui est important, je pense, pour les auditeurs, à mon avis, ça c'est que le diagnostic, le dire du burn-out, c'est un dire de quelque chose qui était votre souffrance, votre excès, votre épuisement et votre manière de souffrir. Donc, ce n'était pas seulement un diagnostic mental ou social. Et c'est ça, je pense, qui est important à faire comprendre, parce que sinon, les attendus implicites de cette notion, c'est les excès de l'entreprise, qui bien sûr peuvent exister, ou l'insuffisance de bonne veille de DRH ou des services adjacents, de médecine du travail, que sais-je, sur la santé des personnes qui travaillent en entreprise, etc. Alors tout ça a une vérité, a une existence, mais au-delà de cette existence psychosociale vraie, dont il est beaucoup parlé, cette souffrance, dans son nom et dans son nommé, à un moment donné, renvoie à la personne comme quelque chose qui est sa souffrance propre personnelle, qui la renvoie à elle, et pas seulement à une globalité, à une situation. Et que du coup, elle se retrouve là avec quelque chose qui est important, parce que ça lui redonne, au travers de cette espèce d'accident mental et social, ça lui redonne comme une identité, au moins une identité qui nécessite d'être conquise. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que l'invitation que vous faites à cette réflexion et à cette prise de conscience, elle recouvre ce qui a été précieux pour moi ici. C'est-à-dire que il y a encore des aspects très mystérieux hein, dans votre potion magique en tant que thérapeute. J'ai pas encore forcément tout compris, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est que j'ai personne jusqu'ici dans mon parcours thérapeutique, et pourtant il est riche, ne m'avait renvoyé l'excès d'énergie qui était le mien. C'est-à-dire que j'ai une forme de pensée, mais une forme d'implication dans les choses qui est très rapidement excessif. C'est-à-dire que je m'implique sans réserve, je me donne. Ça peut être ce que j'attends des autres, mais pas forcément, et en tout cas c'est ce que j'attends de moi. Et ce qui a été la grande richesse et le cadeau, comme si j'avais un peu découvert une pépite que je ne m'attendais pas du tout à déterrer ici, c'est qu'en fait j'étais au moins en partie un acteur de mon propre burn-out, parce que j'ai fini dernièrement, j'écrivais sur mon carnet. Le burn-out, en fait, c'est une équation. Il y a des circonstances extérieures. C'est évident que si vous travaillez un nombre d'heures raisonnable, que si vous avez des objectifs pour lesquels vous avez des ressources personnelles raisonnables, des ressources personnelles existantes, avérées, et des ressources extérieures existantes, il y a déjà des facteurs objectifs qui vont stabiliser la situation. Oui. Mais ce que j'ai vu, c'est l'équation, il manque quelque chose. J'ai vu notamment dernièrement, je voyais sur un blog, et c'est ça que je voudrais rendre prégnant, rendre dans mon témoignage, c'est la partie personnelle, c'est-à-dire quelle partie de ma personnalité avait à voir. Enlevez cette pièce du puzzle, il n'y a pas burn-out. J'ai lu « Burnout, maladie de l'idéalité ». Et je me dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne voulais pas lâcher. Il n'était pas question que j'atteigne moyennement mes objectifs. Ou il n'était peut-être même pas question de partir, parce que j'aurais pu décider de partir. Ou j'aurais pu décider de prendre un congé maladie beaucoup plus tôt. Mais j'étais dans tenir, 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 lutter. Et ce que j'ai
vu dans
les blogs, c'est que c'est souvent une caractéristique des personnes qui sont en burn-out. Ce n'est pas les gens qui ont un poil dans la main. Hein.
Oui, oui. Alors, si vous voulez, je pense que c'est bien exprimé. C'est une bonne remarque sur la clinique des personnes.
Oui.
Mais dans cette remarque sur la clinique des personnes, il y a une question aussi dans leur façon d'être en continuité avec leur environnement ou avec ce qu'elles sont. Et donc, ça pose des questions sur l'identité des personnes, parce que vous disiez que personne ne vous avait dit votre excès d'énergie, patati patata. Mais il y a une façon de pouvoir s'adresser à quelqu'un. On ne s'adresse pas à quelqu'un comme ça, immédiatement, comme pour la guider, parce que cette personne ne sait pas se guider. Donc, il faut pouvoir s'adresser à la personne pour franchir l'obstacle du masque qu'elle est à elle-même, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Et telle qu'elle-même puisse commencer à se regarder, à décaler sur elle-même, à se parler, rentrer comme en conversation avec sa propre personne. Et cette dimension, je pense, est intéressante pour beaucoup de gens, d'un moment donné, de pouvoir conversationner ou de rentrer en conversation. Voir comment on débat avec leur propre personne. Pour cela, c'est nécessaire qu'il y ait un incitateur et un déclencheur extérieur. Voilà,
j'ai plein d'anecdotes qui me reviennent quand j'entends ça, des anecdotes ludiques. Vous essayiez plein de il y avait plein de choses comme ça. Il y a eu la musique d'abord. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que ça vient faire là, dans cette histoire ? Un air de musique. Alors que peut-être on avait regardé une partie de mes épisodes qui n'était pas particulièrement rigolo ou pas particulièrement alerte.
Et pour préciser, vous voulez expliquer ce que, d'un seul coup, ce que vous veniez de me dire m'inspirait des sons ou des notes de musique.
Absolument. D'accord. C'est-à-dire que moi, je vous disais, je ne comprenais pas, parce que pourquoi finalement on n'a pas trouvé de solution à l'instant X. C'est-à-dire que moi, je revenais avec le passé et avec mes... il y avait encore faire de la même chose.
Oui, oui.
Et vous me disiez, chère Véra, savez-vous ce que ça m'inspire ? Alors moi, j'ouvrais, comme il y a une partie chez moi qui aime bien jouer, j'ouvrais les grands yeux, un petit peu comme l'enfant devant une vitrine, qui dit, tiens, étonnant, mais intéressé quand même, qu'est-ce que Lucien va me raconter ? Alors, j'ouvrais très grand mes oreilles. Donc ça me mettait dans une autre partie de moi qui est prête à la découverte, plutôt que la partie qui veut maîtriser, qui décide, et que c'est comme elle a décidé. Ça me rappelle ta les petits papiers. Alors moi, je me disais, très souvent, je comprenais, je voyais absolument pas le lien avec la choucroute, mais alors vraiment pas. Et vous me donniez, en fait, un peu comme dans un rébus, les premiers indices.
Voilà. Oui, mais enfin, aussi, je vous donnais les sons, puisque je vous incitais d'aller chercher la chanson.
Voilà, donc fois, j'allais sur YouTube.
J'allais la chercher avec vous pour que vous puissiez sonoriser la mélodie, le son, la phrase qui servait de fond à ce que vous pouviez avoir dit.
Et puis, il y a eu aussi les mots. Je me rappelle les fous rires que je piquais. Donc, c'est intéressant parce que je piquais des fous rires en parlant de mon désespoir. Cher Lucien, je ne me souviens plus de la date de... Parce qu'en fait, j'oubliais la date de nos rendez-vous, je mettais des mauvaises heures, en fait, la confusion mentale. Et donc, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais de mettre en vers, comme vous le mettiez, comme je voyais que vous le faisiez, de versifier sur un mail une demande de clarification d'heure, de rendez-vous que j'avais oublié.
D'accord.
Et ça devenait rigolo.
Expliquer un peu plus comment je vous renvoyais votre type de message en réalité, je vous renvoyais en y mettant une inspiration,
une
versification.
C'était un poète qui me parlait. C'est-à-dire que j'étais venue trouver un thérapeute et j'avais un monsieur qui me parlait... en langage du 19e siècle, chose que j'aime beaucoup. Ça me rappelait mon époque où je lisais la revue des deux mondes du matin jusqu'au soir. Certains mots qu'on n'entend plus aujourd'hui. Des locutions verbales, des phrases très élégantes. Et en fait, c'était inattendu. Et c'était une partie d'espoir qui revenait au milieu d'une mer de désespoir, en fait. Une partie de rêve, une partie qui a confiance dans la vie.
Oui, mais au-delà des canaux de répétition.
Au-delà des canaux de ce que je connais bien et qui ne marche pas, puisque j'avais épuisé tout ce que je savais faire avec mon entreprise pour trouver une solution.
Oui, avec vous, c'est ce que vous savez faire avec vous.
Ce que je savais faire avec moi-même, c'est ça.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, maintenant, je pense qu'on a à peu près expliqué aux auditeurs potentiels ce qui s'est passé, un petit peu ce qui vous est arrivé et aussi comment vous êtes arrivé jusqu'ici et comment ça a cheminé avec des moyens de découverte, de renvoi, de réponse, etc. Et toujours sur le chemin. Et petit à petit, quelque chose s'est précisé, s'est mis en forme dans votre sortie de tunnel, peut-on dire. Est-ce que vous pouvez un peu témoigner comment cette sortie a commencé à poindre pour vous? Quelles sont les images, quelles sont les sensations, plutôt en sensations qu'en explications, si vous pouvez dire les choses.
Ce qui me revient là, c'est qu'il y a eu comme ça, alors c'est peut-être dû à ma personnalité, mais il y a eu une série de mots chocs, de mots qui font tilt comme ça, qui font comme une série d'éveils, qui ont un impact, qui amènent de la joie, qui amènent une ouverture, d'inattendu en tout cas.
Oui.
Il y a une série d'inattendus qui a fait qu'à un moment... Peut-être je suis même plus venue chercher la même chose ici. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, mais il s'agit que je retourne au travail dans 6 mois, quoi. Puis ensuite, ça a été dans 1 an. Puis ensuite, ça a été dans 2 ans. Il y a eu comme ça une série, d'abord la temporalité, ce que j'ai pu constater, mon lien à la temporalité de ce qui se passait, ma propre auto-urgence avait tendance à s'amenuiser. Il y avait aussi quelque chose autour de l'acceptation. Je me rappelle d'un mot fort, j'ai des frissons dans les genoux quand j'en parle. C'est les anciennes sensations qui reviennent. Je me souviens comme d'être un espèce de Vera au fond de son fauteuil, un peu molle comme ça, et je m'assieds et je lui dis... Mais on va pas y arriver, quoi. On va pas y arriver. Quand je viens ici, c'est quasiment mes seules heures avec quelque chose que je fais pour manger, boire, dormir, payer mes impôts. Et c'est tout ce qui me reste. Je suis au fond de la dépression. Et avec des yeux que j'ai pas compris, sur le coup, parce que vous sembliez pas triste. Vous aviez arrêté de griffonner, donc je me suis dit, tiens, et vous m'avez dit, je me rappelle parce que je l'ai remis en lettres majuscules sur mon carnet, vous m'avez dit, mais presque sur le ton d'une boutade, alors que vous m'avez dit, mais Vera, mais soyez déprimée, soyez complètement déprimée, avec un grand sourire, que je ne comprenais pas. Du genre, Vera, savourer. Comme quand dans un koan zen, on dit, quand vous êtes malade, mais à fond, quoi, pas un peu. Là, je me suis dit, mais je me rappelle, hein, j'ai marqué ça, je suis sortie, là, il y a un petit couloir pour sortir, j'avais la sensation, mais j'étais sonnée, comme si on m'avait donné un coup entre les oreilles.
Mais vous voyez, ça, c'est important, je pense à... comme témoignage, parce que c'est rare, à mon avis, c'est que vous donnez quelque chose, justement, comme dans ces haïkus, ces choses-là, de ces cultures que j'aime beaucoup, dont je suis assez imprégné, mais aussi vous donner une notion qui est celle de la déformation du temps, et de la déformation du temps et des modifications de la conscience du temps et au travers du temps, dans la manière dont on est en bonne santé dans un contexte donné, ou dans la manière dont on est malade ou on se sent malade à partir d'un contexte, et dans la manière où le temps est vécu dans la déformation de sa personne et de sa visibilité, de sa conscience, à l'intérieur de sa condition de souffrance ou d'être malade. Et puis ensuite, vous donnez une vision, à un moment donné, de crise, d'impossibilité de sortir, de l'empaquetage, de la déformation de sa vision interne qui s'est conglomérée à partir de son état et qui représente une vision telle que c'est une sorte de vision totale dans une quantité de temps de sa personne et d'une conviction de ce qu'on est et de comment on est. Voilà. Une sorte d'épuisement, une solitude complètement grande, telle ouais. qu'il existe une grande difficulté qui est de l'extérieur. Donc à partir de ce moment-là, ce point de bascule, toutes ces notions sur la conscience et les déformations et les changements par la conception autre de la perception du temps et de la sensation, je pense que c'est important que vous aviez réussi à témoigner quelque chose de ça.
En tout cas, c'est encore un souvenir fort, hein, puisque j'ai un voile dans la voix quand j'en parle, j'ai des frissons. Il y a eu une invitation à m'installer dans le présent. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à être en dialogue réel avec vous, j'arrivais pas à être en dialogue avec la Vera réelle qui était épuisée. Je voulais continuer à parler à une espèce de Vera imaginaire qui était au top, mais qui n'existait pas. Et là, je me souviens que ça a pris quelques semaines, parce que comme j'ai un tempérament assez trempé, je n'ai pas lâché tout de suite. Mais je me souviens que peu à peu, en 2, 3, 4 semaines comme ça, j'ai commencé à me détendre, je venais en séance ici, j'étais beaucoup plus détendue. C'est-à-dire que je n'étais pas à atteindre un objectif, j'étais à, les choses sont comme elles sont. Donc un début de meilleure acceptation, parce qu'en fait je refusais mon propre état. Ce qui peut expliquer aussi que je ne trouvais pas de solution. Et à, tout doucement, comme ça... on est comme on est, on trouve pas, et ben si on trouve pas, on trouve pas. Et peu à peu, il y a des espèces de... Il y a une séance aussi mémorable comme ça, où je me souviens que je parlais très vite, et que dans... Mais je le voyais pas, et c'est à un moment, avec vos schémas, et vous m'avez fait un retour, je parlais vite, dans mes phrases, il y avait à la fois un but, et dans la même phrase, il y avait... toutes les difficultés que je ne savais pas résoudre face à ce but. Et c'était une succession de salves, comme ça, entre nous deux. Et à un moment, alors je me rappelle, il y avait une espèce de grand silence avant, donc du coup je me suis arrêtée, parce que comme je savais mieux me synchroniser avec vous, il y a eu un silence, il y a eu votre phrase qui est arrivée, et il y a eu un silence après. Et la phrase, je ne me souviens plus laquelle elle était, mais je me souviens de l'effet que ça m'a fait dans le corps et dans le cerveau. Les mots, je ne savais plus, mais ce que j'ai vu, c'était que... Mais ma pensée, c'était un sac de nœuds. D'ailleurs, je vous ai dit, ah oui, je fabrique des sacs de nœuds. Donc, je passais ma vie à tricoter des nœuds. Alors, on peut s'étonner. Après, effectivement, on est scotché au sol, hein, face à des nœuds. Il n'y avait pas d'issue dans ma manière de concevoir les choses, déjà au démarrage.
C'est ça. Alors, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que, si vous voulez, la spécificité de souffrance ou d'embarras ou de buter ou de cogner sur des choses que vous expliquez, moi, c'est au travers de ça que j'essaie de prendre contact avec les personnes pour que, d'une certaine façon, les formaliser, qu'elles se formalisent. Car c'est à partir de là qu'elles peuvent commencer à se parler à partir de cette espèce de butée qui est en même temps leur personne, leur personnalité, ce qui leur est arrivé, etc. Et donc, se formaliser, ça veut dire rentrer en conversation avec elles-mêmes et commencer à se comprendre, tout en restant ce qu'elles sont et en ne pouvant pas tout de suite être autrement que ce sur quoi elles se butent sur elles-mêmes. Vous voyez,
c'est
donc c'est tout ça que j'essaye de aussi théoriser dans ce que je mets sur le blog petit à petit, pour les gens que ça intéressera, pour essayer de faire comprendre comment il faut chercher à rentrer en contact avec les personnes, en essayant de comprendre comment fonctionne leur cerveau de façon élargie. Voilà.
Ça me parle beaucoup, parce que au démarrage, je ne savais pas faire ça. Quand l'émotion était trop forte, c'est-à-dire que les traumatismes que j'avais vécu étaient là, en fait, j'étais complètement dedans.
Voilà.
Et je parlais à partir du traumatisme. Et peu à peu, comme si, par modélisation aussi peut-être, hein, parce que je sais que j'apprends beaucoup comme ça dans la vie, beaucoup à partir de personnes qui me parlent. Hein, chaque personne peut nous apprendre quelque chose, le maçon comment il fait son mur, le boulanger comment... Et là, moi j'apprenais, je restais tout en étant en contact avec... j'avais des crises d'asthme aussi ici, hein, grasse qui commençait à surgir. Je restais en contact avec ça, donc je refoulais pas. Mais tout en restant en contact, je ne parlais plus à partir de ça. Donc dans le faire, pas en théorie, mais un mode d'apprentissage d'un lien avec mon propre traumatisme.
C'est ça, oui, avec votre traumatisme, mais avec votre corps aussi.
Et avec mon corps, c'est-à-dire que je devenais le témoin qui s'étouffe, chose en général qui soit me mettait en colère, soit triste.
Oui, et puis celle qui s'exprime aussi.
Celle qui s'exprime, et là, il y avait tout ça, la toux, la crise d'asthme qui vient, les tremblements, peut-être les larmes, et autre chose. De plus tranquille, plus stable. Et on traversait, je me rappelais, j'ai la sensation là, qui est là de un peu traverser un couloir, comme si, de toute façon, ex movere, les émotions, ça passe, même si ça dure, ça passe. Et là, on laissait passer, c'est-à-dire que même si ça durait, j'avais un moyen avec quelqu'un à côté de moi qui m'aidait, parce que ça, je sais le faire dans ma vraie vie, mais quand ça tangue moins. Mais quand c'est force 7, force 10, je ne sais plus faire.
D'accord. Ah, écoutez, je pense que là, vous avez expliqué pas mal de choses dans le témoignage, que ce soit pour vous ou pour l'auditeur potentiel, et l'auditeur qui vous met aussi, je dirais, à la porte et à la fenêtre de vous-même, d'une certaine manière, puisque c'est ce que vous avez compris dans votre témoignage, et dans votre intérêt pour l'idée de témoigner, voilà, donc on pourrait théoriser, travailler sur cette notion sans doute plus largement, mais là, je crois que c'est important de signaler qu'on comprend que c'est important, que c'est quelque chose d'intéressant, que ça peut faire partie aussi d'une reconquête de son retour vers d'autres humains, ou vers la société, ou vers... la coopération avec d'autres, et pas seulement le travail pour le travail, d'une certaine manière. Voilà. Et peut-être que vous pourriez préciser, maintenant que vous êtes comme de retour vers les milieux du travail, les milieux de la coopération, etc., le début de comment vous réenvisagez quelque chose à partir de ce parcours du traumatisme, de votre travail et de la façon dont vous êtes en phase de changement.
Alors c'est vrai que l'inattendu de l'histoire, c'est que cheminant ensemble, de séance en séance, j'allais dire chemin faisant, la poule est tombée sur une cuillère. Chose que la poule n'était pas du tout venue chercher. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais venue chercher... me remettre en état de travailler. Et qu'est-ce que Vera a découvert? Mais que, en fait, elle pouvait apprendre à être différemment pour le bénéfice, son propre bénéfice, mais bénéfice d'autres personnes aussi. Je me souviens qu'en cours de route, comme ça, je me souviens avoir démarré une séance en disant, mais en fait, mon métier de coach, mais je peux le faire complètement différemment. C'est-à-dire que j'avais fait quelques coachings, même en étant fatiguée, parce que je tenais la route, je continuais bizarrement à tenir la route. Et je voyais que j'utilisais beaucoup moins d'outils codés, j'utilisais beaucoup plus ma propre personne et les résonances entre deux personnes, c'est-à-dire en fait ce qu'on faisait ici, par une sorte de mimétisme. Et
d'appropriation.
Et d'appropriation. C'est-à-dire que ça m'a... Il y a eu des cadeaux comme ça, au fur et à mesure de notre itinéraire commun. Le premier cadeau, c'est que je me suis mise à envisager de faire ce qui m'a toujours, ce que j'ai toujours aimé, c'est l'accompagnement de projet ou l'accompagnement de personnes ou de dirigeants, mais différemment, comme très, prenant du champ, j'ai pris du champ par rapport aux outils, j'ai fait différentes écoles de coaching, donc j'avais, mais j'étais très collée aux outils quand même.
Ah oui, c'est important ce que vous dites aussi.
Très collée aux outils. Oui, oui, oui. Certains outils définissant une personnalité, et puis là je me rendais compte qu'un être humain c'est bien plus qu'une personnalité, parce que s'il n'y avait que ma personnalité ici, on n'y serait jamais arrivé. Donc il y a autre chose que ça, de précieux dans l'être humain, que toutes ces choses qu'il a fait depuis des années. Il y a comme un espèce d'espace où on peut construire, mais encore faut-il le trouver. Et donc j'ai peu à peu, comme ça, l'idée s'est faite de « ah tiens ». Et je voyais que j'interrelationnais, c'est un truc qu'on a, un mot que j'invente avec vous, ça, j'interrelationnais avec les autres, peu à peu différemment. Il y a des amis qui m'ont dit, mais c'est marrant que tu parles plus comme avant.
Bon, alors ma chère Bérinde, vous vous êtes rendu compte que vous parliez autrement, et que vous étiez en relation autrement avec vos amis, ou vos proches, ou des gens avec qui vous recommenciez à travailler, ou des ébauches de travail, et eux-mêmes vous faisaient cette remarque, et ils vous faisaient ce renvoi, ce renvoi en miroir qui vous rendait sensible au fait que vous parliez autrement, et donc du fait que vous étiez aussi en quelque sorte autrement, ce qui était intéressant pour vous à que ce soit constaté de l'extérieur, voilà. Eh bien, je pense que nous allons terminer là, maintenant, ce témoignage, en vous remerciant beaucoup, parce que je crois que c'est intéressant, c'est délicat, moi je trouve que c'est courageux, et en plus, dans votre nouveau regard sur votre métier de coach, ou votre métier en rapport avec les personnes qui travaillent dans l'entreprise, ou qui ont affaire à ces données, je crois que vous allez pouvoir, donc, peut-être conclure pour faire un petit message là-dessus. Moi, je dirais, bon, vous avez fait une remarque que les méthodes en coaching, c'est bon, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de méthodologies, mais en fait, que l'homme et l'être humain, c'est plus que ça. Et effectivement, bon, j'abonderai dans votre sens en disant qu'il faut gagner le courage des personnes. Voilà, donc je vous laisse conclure, si vous voulez bien nous donner les quelques éléments de terminaison, de message sur votre vision par rapport à votre nouvelle façon d'être et de travailler.
Je ne sais pas si je vais répondre complètement à la question, mais ce qui est là vivant, c'est comme une nouvelle Vera, hein, c'est... Dernièrement, je mettais renaissance sur mon carnet, ce que j'étais pas venue chercher. Moi, j'étais venue chercher, remettre la machine en route, mais la même, pas un nouveau modèle. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ce que me renvoyaient mes amis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de flexibilité. Via justement cette partie un peu onirique ou de la musique, ou comme si... ça m'a réconcilié avec une partie artistique de moi, mais avec laquelle je dialoguais plus depuis très longtemps. Et en fait, ça me permet d'avoir un regard plus large aussi sur les autres.
Tout en ayant votre conformité dynamique.
Oui, c'est, voilà. Je pense que je vais rester
et votre
dynamique.
Forme d'intensité, mais tout en étant précautionneuse.
Il y a quelque chose de plus doux, je pense qu'il y a, avant, n'étant pas cet état de faiblesse dans lequel j'étais tombée, j'avais quand même un regard de manager qui n'était pas condamnant, mais qui se disait, pourvu que ça ne m'arrive pas, hein, bah, la vie m'a gâtée. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'est arrivé. Et l'histoire, c'est ce que je voudrais que mon témoignage porte c'est qu'il y a toujours un après, et que l'après, il est drôlement intéressant.
Très bien, très bien. Mais écoutez, je pense que c'est... Il y a beaucoup encore, sans doute, évidemment, à dire, il y aura à commenter, mais je crois que déjà clôturé là-dessus. À mon avis, c'est enrichissant. C'est enrichissant d'avoir fait. Et c'est enrichissant pour l'après-coup. Voilà. Merci, Vera.
Merci à nous deux. Merci, Lucien. À bientôt.